Donc voilà, bonjour à tous. Donc comme je l'ai dit, slash du 3 juin. Alors attendez, je sors les petites notes. On sort les petites notes qui vont me permettre, hop, d'être efficace dans ce stream. Voilà, parce que j'ai pris beaucoup de notes pour ce stream-là, vu qu'il y a des sujets qui sont assez péchus, mais ça va être sympa. Voilà. Donc déjà, je le rappelle, les streams, les slash du dimanche, c'est un débriefing de l'actu high-tech. Voilà, donc en gros, on parle des dernières news de la semaine, news que j'ai sélectionnées, news qui me plaisent, à moins qu'il y ait des news vraiment ultra importantes, même si elles me plaisent pas, j'en parle quand même. Mais en général, c'est des news qui me touchent de près ou de loin. C'est pour ça qu'on parle souvent aussi dans cette émission de YouTube. Dès qu'il y a des nouvelles qui sont liées à YouTube, eh bien écoutez, j'en parle, voilà. Donc, hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, vous pouvez, comme à chaque stream... Alors, attendez, est-ce que j'ai mis le podcast dans la description? Voilà, c'est surtout ça que j'allais oublier. Chaîne anti-slash, l'émission en podcast, slash en podcast. Voilà, alors pas un podcast sur les profs, hein, je sais pas si vous avez remarqué, vous-même vous savez. Non, l'émission, hop, en rediffusion audio, en podcast, hop, voilà. Donc vous pouvez aller vous abonner, c'est sur iTunes, c'est sur plein de choses. Normalement, si vous actualisez votre stream, vous le voyez maintenant dans la description. Donc je sais que beaucoup de gens sont attachés à ce format de podcast. Moi, pas trop, mais je comprends le plaisir que c'est. Moi, j'écoutais des podcasts de musique il y a longtemps. J'écoutais Trance Around the World, pour ceux qui s'en rappellent. Peut-être qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui écoutaient ça à l'époque. Maintenant, ça s'appelle Above and Beyond Group Therapy, je crois, mais j'écoute plus trop. Mais oui, j'écoutais Trance Around the World à l'époque et c'était très très cool. Dites-moi s'il y en a qui l'écoutaient dans le chat, je suis très curieux. L'abandon... Attendez, tu as l'air pâle, non, je suis pas pâle, écoute, c'est peut-être le... En fait, je pense que j'ai pas le même réglage, parce qu'il y a une mise à jour de l'ampoule, la petite ampoule Hue, et c'est possible que j'ai pas le même réglage exactement. Attends, regarde, je vais te montrer ça en direct, tu vas voir, c'est incroyable, hop. Voilà, je peux augmenter un petit peu la chaleur de l'ampoule. C'est très très incroyable. Depuis la dernière mèche d'Iridium, extension Chrome qui permet de mieux gérer YouTube, j'ai perdu des fonctionnalités. J'ai pas fait attention, Thibaut. Avec plaisir, Rémi, bonjour à toi. Bah, écoute, bonjour à toi de Bangkok, alors. Et bienvenue dans le stream, bienvenue dans le slash. Et donc, comment je fais crash mon PC? Eh bien, écoutez, vous allez voir, ce n'est pas un titre putaclic, c'est un vrai titre, ce sont des chercheurs qui ont trouvé ça, et c'est assez impressionnant. Alors, déjà, vous le savez, ce stream, enfin, moi, je suis en partenariat avec Shadow, via leur programme Rec by Shadow, donc, deux choses. La première, et on va passer directement sur l'écran, la première, c'est que, on va actualiser, parce que ça va être quand même sympa. Je disais donc, la première chose, c'est que vous pouvez, en retweetant ce tweet, donc vous allez sur mon Twitter et tout ça, et vous connaissez en général la chanson si vous suivez cette émission depuis un petit moment, vous retweetez ce tweet qui annonce le stream, et je tire au sort à la fin de l'émission une personne qui gagnera un mois gratuit de Shadow pour pouvoir tester le PC dans le cloud, El Famoso PC dans le cloud. Et pour ceux qui sont intéressés par cette solution, il y a un code de réduction dans la description, enfin il y a un lien avec un code 10€ sur votre premier mois, donc n'hésitez pas à aller essayer. C'est vraiment très très bien, même si, et on en reparlera à la fin de cette émission, il y a des petits défauts à Shadow, c'est pas encore 100% parfait, mon but n'est pas de gober cette marque, bien au contraire, mais c'est une marque qui, je trouve, propose quelque chose de vraiment ouf, voilà, mais encore une fois, il y a encore des petits défauts, et heureusement que ce n'est pas parfait. Yo, et merci Spring pour ton don super chat, je le rappelle, les petits dons qui font clignoter les lumières à l'arrière, alors... J'allume pas les lampes en permanence maintenant parce qu'on est en été et que les lampes ça peut chauffer un peu. Et donc il commence déjà à faire très très chaud dans mon bureau et je commence déjà à péter un câble alors qu'on est que le 3 juin. Donc voilà, j'éteins les lumières et je les allume vraiment que pour les tournages et pour ces choses là. Parce que sinon ça consomme de l'électricité déjà et puis sinon ça chauffe, vraiment ça chauffe de ouf. Yo, la Simonos. Et bonjour à tous ceux qui sont là. Salut Mocha Station Gang. Au fait, c'est sans engagement Shadow. Alors, tu as plusieurs formules. Tu en as une sans engagement. Je ne me rappelle plus des formules en détail. Mais regarde, hein, c'est expliqué. Tout est expliqué. Voilà, alors quel est le programme du soir? Donc maintenant qu'on a fait le petit tour sur Shadow, déjà la petite rubrique news de la chaîne avant de passer au sommaire, il n'y a pas eu de nouveau Patreon récemment sur la semaine dernière, et si, un dernier petit truc important, j'ai ouvert une petite chaîne secondaire qui s'appelle Guillaume Antislash, j'y ferai des petits lives, on va dire de façon assez aléatoire, des petits lives de jeux vidéo, donc si vous voulez aller voir ça, c'est dans la description, elle s'appelle Guillaume Antislash, cette chaîne, voilà, Antislash étant mon mon côté obscur jeu vidéo. Voilà, donc si vous voulez aller vous y abonner, et je vous promets que vous serez pas spammé sur cette chaîne là il y aura à tout péter un live par semaine gros maximum, hein. Ça sera un petit peu random, ça peut être pendant la nuit, ça peut être des lives aussi où je fais un peu de montage, enfin voilà, ça peut être des choses comme ça, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, et si ça vous plaît pas le live, vous vous désabonnez, enfin voilà, il n'y a aucune obligation. Donc au sommaire aujourd'hui de ce slash, encore une fois, du 3 juin, donc on passe à la rubrique des news. Le sommaire, tout d'abord on va parler d'une carte mère qui peut gérer 20 cartes graphiques, on va enchaîner sur les nouveaux smartphones de Xiaomi, puis on va parler de l'internet très haut débit qui va arriver par onde radio, ce qui est pas mal pour ceux qui n'ont pas accès à la fibre, notamment à la campagne par exemple. On va parler de Tesla et de sa Model 3 avec un record d'autonomie qui a été atteint. On va parler de la PlayStation 4 qui a été piratée, qui a été jailbreakée. Voilà, donc on peut y installer un firmware craqué. Pour, vous le savez, lancer... Enfin, on va pas en parler maintenant, c'est le sommaire. On peut faire planter, et c'est là le titre de ce slash, on peut faire planter un PC avec un simple son, et vous allez voir que l'expérience est assez folle. Voilà, alors il y a des sons, il y a des ultrasons, enfin c'est pas mal. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas un titre putaclic, je vous l'assure. Également, il y a un petit tacle du fondateur de Snapchat qui fait une petite pique à Facebook au niveau de la façon dont Facebook a copié Snapchat, et au niveau un petit peu de la vie privée, donc vous allez voir que c'est assez intéressant aussi. On va parler du OnePlus 6 et de sa reconnaissance faciale qui est complètement dans les choux, et on va parler de la 4G box de Bouygues Telecom qui redevient intéressante pour beaucoup de gens. Voilà, je veux pas vous spoiler non plus. Pas mal de petites news dans ce stream. Donc on a un programme assez chargé, et je vous le rappelle, demain, après la keynote d'Apple, keynote d'ailleurs qui sera, je n'ai absolument pas noté l'horaire, keynote Apple, je vais regarder ça, si des gens le savent dans le chat, le 4 juin, mais je sais pas à quelle heure elle est exactement, mais en gros, après la keynote, il y aura un stream débriefing, donc soyez là, soyez présents sur ma chaîne, de toute façon il y aura l'annonce, hein, vous pourrez pas le louper, on fera un petit débriefing de la keynote. Au début je voulais décaler ce stream là pour le faire demain soir, mais bon, autant pas tout mélanger, hein, et autant faire tout... Et tout. Merci Louis, ça fait plaisir des petits liens que tu envoies, c'est très très cool. C'est à 18h la keynote, donc ça... Ah, c'est à 19h demain la WWDC. Donc en gros, ça dure une heure à peu près les keynotes, donc à 20h, rendez-vous sur ma chaîne, et on fait un live spécial débriefing pour parler eh bien, des annonces d'Apple, parce que moi je trouve ça intéressant. Apple, même si on aime ou qu'on n'aime pas, lead, continue de diriger, de mener encore un petit peu le marché, notamment le marché des smartphones. Dès que l'iPhone sort quelque chose, les constructeurs suivent derrière, et on le voit avec l'encoche. Et même si certains malins diront que c'est pas Apple qui a lancé l'encoche, je vous l'accorde, il n'empêche que c'est après l'iPhone 10 que tout le monde a suivi cette encoche et cette mode là. Voilà, donc écoutez, on va attaquer tout de suite parce qu'encore une fois il y a un programme assez chargé, et je vous le rappelle, vous pouvez retweeter ce petit tweet là qui annonce le stream pour tenter de gagner un mois gratuit de Shadow, et si Shadow ça vous intéresse, vous avez 10€ de réduc dans la description. On va donc parler de la première news, d'une carte mère qui peut gérer jusqu'à 20 cartes graphiques. Alors vous allez me dire, 20 cartes graphiques, quel intérêt, hein, voilà, globalement, à quoi ça sert? En fait, je pense que certains l'ont déjà deviné, on va sortir le chat parce que, voilà, c'est quand même plus sympa. Vous savez quoi, je vais pop-out le chat, je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, histoire de la voir en permanence, parce que sinon je suis obligé de switch, et j'aime pas trop. Voilà, c'est un petit peu pénible. Hop, le chat, on va le mettre comme ça, et les notes, on va les mettre là, voilà, que je puisse les lire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, en gros, c'est Asus qui sort une carte graphique qui permet de gérer... une carte mère, pardon, qui permet de gérer 20 cartes graphiques. Alors, ça sert à de la crypto-monnaie, ça sert, en gros, à miner, tout simplement. Cette carte graphique, cette carte mère s'appelle la H370 Mining Master, et ce qui est assez étonnant, et c'est un truc auquel je m'attendais pas, c'est que les cartes graphiques ne se branchent pas sur des ports PCI Express. C'est le truc classique quand vous avez une carte mère dans votre PC, c'est des ports PCI Express. Là, ça se branche sur de l'USB 3.1. Voilà, donc c'est assez étonnant, parce qu'on pourrait imaginer que tout passe par du PCI Express. Merci Chris Duloup pour un Patreon, un type sur Patreon de 10$. Merci à toi de soutenir mon indépendance, et merci à toi de soutenir ma chaîne. Ça fait plaisir. Je suis désolé, je me permets de boire, j'ai la gorge déjà qui est assez sèche. Je viens de devenir ton patron. Et ben merci à toi, Daniel Paulin. Ça fait grave plaisir, et bienvenue donc à toi aussi sur Discord et sur le channel dédié aux vidéos en avance. Et d'ailleurs, tu as une petite intro de vidéo en avance, donc profites-en. Voilà, non, je suis plus en partenariat avec Dashlane Carlo Drift. Voilà. Yo les slashers, et bien bienvenue à toi Yarlux, et ça fait plaisir que tu sois dans le stream. Voilà, merci à toi de me suivre depuis si longtemps. Donc voilà, c'est que c'est des ports PCI Express, c'est des ports, c'est de l'USB 3.1 pour ces cartes graphiques. Je pense qu'ils ont fait ça dans un souci de place, parce que vous vous doutez bien que caler 20 cartes graphiques sur une seule carte mère, ça aurait été très très difficile. Et autre petite anecdote, c'est qu'il y a besoin de 3 alimentations pour fournir assez d'énergie pour alimenter tout ça. Voilà, bon, c'est plus une petite brève qu'une vraie news voilà, en détail et tout ça. On va parler beaucoup plus longtemps de la news suivante et des nouveaux téléphones de Xiaomi, mais je trouvais ça assez fou d'avoir ce genre de carte mère. Alors, elle n'est pas encore sortie, pour ceux éventuellement parmi vous qui feraient du mining, elle n'est pas encore sortie. Elle sera visible au salon Computex de Taïwan, enfin à Taïwan, qui sera du 5 au 9 juin. Voilà, visible, hein, pas encore en vente. Mais pour ceux que ça intéresserait, eh bien, n'hésitez pas. Salut, un conseil pour la chaleur, même si je suis en retard, tu mets une bouteille mi-pleine au congélateur pour qu'elle congèle. En plus, j'ai vu un... Ok, j'ai pas compris ton commentaire, Matma, je suis désolé. Le chauffage, exactement, c'est la carte mère spéciale chauffage. Déconseillé en été, bien évidemment. Le prix, je crois pas qu'il ait été annoncé. Voilà, Asus n'a pas communiqué de prix. Mais sachez que ce genre de carte mère, je pense, coûtera au minimum 500 balles, hein, voire 1000 euros sans trop d'hésitation. La carte mère qui réchauffe la planète et cause des intempéries. C'est vrai qu'il y a un gros débat aujourd'hui autour de la crypto-monnaie qui pourrait être la cause, qui pourrait accélérer encore plus le dérèglement climatique. Voilà, parce que ça chauffe énormément, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Bon, c'est pas un débat que j'ai spécialement envie de faire là, maintenant, tout de suite, mais c'est vrai que hein, ça consomme énormément d'énergie, mais certains répliqueront que le système bancaire qu'on a aujourd'hui aussi consomme beaucoup d'énergie. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu facile de critiquer les crypto-monnaies pour ça, alors que gérer les banques, gérer les comptes en ligne, gérer les serveurs, pour, voilà, enfin, ça aussi, ça consomme de l'énergie. Voilà. Guy, la B350 Mining de chez Asus faisait du 19 cartes graphiques en PCI Express. Ok, je ne savais pas. C'est un domaine que j'ai pas spécialement suivi, hein. On est d'accord que je regarde un petit peu les news qui apparaissent. Alors, il y a des news que je lis assez régulièrement et tous les jours, que je sélectionne avant le stream. Mais il y a des news que je vois et que je me dis, waouh, c'est assez ouf. Bon, bref, voilà. On va passer à la news suivante. Je vais lire un petit peu le chat quand même. N'hésitez pas à réagir à chaque article, hein. C'est complètement le but. Le Discord est dans la description, Music Game, si tu es intéressé, oui. Yo, Jen Squire, comment vas-tu, ami wikipédien? Go brancher son mineur à un panneau solaire. Ça pourrait être intéressant, hein, de miner. Le problème, c'est que l'énergie solaire, je pense, ne fournit pas assez de courant pour faire tourner des cartes graphiques et des choses comme ça. Vraiment. Tu as pas raté grand-chose, Billy, ne t'inquiète pas. Salut, Solid Spock, comment vas-tu? Sniff plus de Dashlane, dommage, j'aime bien Dashlane. Mais moi aussi, j'aime bien Dashlane. Mais la négociation a été compliquée, ils ont pas accepté ce que j'ai demandé, mais y a rien de très très grave. La carte mère chaudement recommandée en hiver, t'as compris, chaudement. Oui, j'ai compris. En même temps, le jeu de mots n'était pas très très compliqué. On va passer à l'annonce. On va passer à Xiaomi. On va passer à l'annonce des Mi. Oh, merci Jérémy Bouchard. Merci à toi de soutenir mon indépendance. Merci à toi, ça fait grave plaisir. Donc je vous le rappelle, Patreon, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et le lien est dans la description si ça vous intéresse. Et vous avez des petites vidéos en avance si vous typez assez. Voilà. On va enchaîner donc sur Xiaomi. Vous savez que Xiaomi, c'est une marque que moi j'aime énormément. J'ai alors la trottinette, j'ai l'aspirateur et j'ai deux Xiaomi qu'il faut que je teste absolument. La vidéo est pas encore sortie, il faut que je me bouge les fesses. Mais voilà, je suis un gros fan de Xiaomi et on va dire que je suis limite plus fan de Xiaomi pour les produits qu'ils font à côté de leur téléphone. Bon, je sais que c'est pas forcément très cohérent, mais c'est comme ça. Xiaomi qui annonce donc deux nouveaux smartphones. Bien sûr, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Le Mi 8 et le Mi 8 Explorer. Mi 8 Explorer que je trouve très très joli et on va dire un petit peu plus original que le Mi 8 classique. Alors, les caractéristiques, que je vous explique un petit peu tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc j'ai pris des notes aussi parce que sinon, refaire tout l'article en entier, il y a énormément d'infos et ça va être assez long. Donc tout d'abord, c'est, comme je l'ai dit, les nouveaux téléphones haut de gamme. Chris Lou qui a donné 80$ sur Patreon. Voilà, c'est un troll très certainement. Donc c'est les nouveaux téléphones haut de gamme de Xiaomi. Voilà, donc haut de gamme, le haut de gamme pour Xiaomi, c'est à peu près 500€, hein, environ. Ils vont être distribués en France, ce qui est un point important, et j'avais envie de vous dire ça assez rapidement parce que Avant, on parlait de Xiaomi un petit peu en pleurant, dans le sens où il fallait toujours passer par de l'import sur Gearbest et des choses comme ça. Maintenant, ils vont être distribués en France, par exemple dans la boutique à Paris. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse et qui sont à Paris ou qui passent sur Paris, eh bien n'hésitez pas. On va commencer par le Mi 8, hein, le Mi 8. Bon, déjà, ce qui nous frappe instantanément, c'est que ce smartphone, et je dis ça en trollant un petit peu, je me le permets, ce smartphone ressemble fortement, voire très fortement, à un iPhone X. Bon, on sait que la Chine et les constructeurs chinois sont réputés pour copier, hein, osons le mot, copier un petit peu les designs des entreprises et des constructeurs américains. Mais là, c'est vrai que c'est assez frappant. Enfin, le notch, l'encoche ressemble vraiment à fond à celle de l'iPhone X, hein, très clairement. Vous savez quoi, je vais allumer le ventilateur, sinon je vais mourir. Voilà. Donc, au-delà de du design, c'est un téléphone qui est assez intéressant sur le papier. Un écran de 6,21 pouces, ce qui est quand même vraiment pas mal. Un écran aussi en Full HD+, alors ce qu'ils appellent Full HD+, en gros c'est de la Full HD parce que c'est 1080p sur la largeur, mais il y a 2248 pixels parce que c'est un format à peu près 18/9. Voilà, donc c'est un petit peu plus haut sur la longueur. Donc un écran qui est plutôt intéressant, hein. Moi je trouve que dépasser du 1080p sur un écran de smartphone, c'est 100% OSEF, vu comment c'est petit les pixels. Un Snapdragon 845, donc bon, en gros, un proco très puissant, il n'y aura pas de souci. Merci Skydiver pour ton tip sur Patreon, ça fait grave plaisir. Vraiment merci à toi. On enchaîne, donc le score DxOMark, pour ceux qui sont intéressés un petit peu par la photo, Xiaomi s'améliore de plus en plus là-dessus, c'est vraiment top. Donc maintenant, on a sur ce score DxOMark 105 points en photographie. Alors je vous le rappelle qu'un score dit comme ça, pas vraiment trop de sens, hein. Il faut regarder point par point sur DxOMark un petit peu ce qu'ils en pensent, hein, voilà, sur chaque catégorie, parce qu'il y a plusieurs catégories différentes sur les photos. En gros, il y a les photos de nuit, photos de jour, puis il y a vraiment les trucs, je crois il y a la profondeur de champ, enfin il y a beaucoup de choses qui sont analysées et il y a des notes en fonction des situations. Donc voilà, dire que c'est 105, ça a pas trop de sens, mais ça donne quand même une petite estimation, et globalement Xiaomi s'améliore beaucoup sur la photo. Voilà, donc ça, sachez-le, et c'est quand même quelque chose de cool, parce que moi, c'était un des trucs qui faisait que j'aimais pas trop Xiaomi. Ce sont de très bons smartphones pour monsieur et madame tout le monde, mais ce ne sont pas de très bons photophones. Et là, c'est en train de s'améliorer, et c'est quand même super cool. On a une double caméra de 12 mégapixels qui ouvre à 1.8, et un deuxième capteur pareil de 12 mégapixels qui ouvre à 2.4 pour avoir la profondeur de champ, enfin pour gérer l'effet bokeh, pour simuler une faible profondeur de champ. Voilà, sans entrer trop non plus trop dans les détails techniques en photo. À voir dans les tests, hein, les performances de l'appareil photo, c'est toujours très difficile quand même de donner un avis maintenant, même si DxOMark dit que c'est vachement bien. Vaut mieux tester soi-même, c'est quand même toujours important, et de lire un maximum de tests. On retrouve à l'avant une caméra de 20 mégapixels, donc sur le capteur frontal, qui ouvre à 2.0. Bon, pareil, à voir. Apparemment, ça pourra aussi simuler, vous savez, pareil, l'effet de flou sur la caméra frontale. Bon, on verra. Il y a trois smartphones avec le Mi 8 SE. Mais je vais en parler du Mi 8 SE, ne t'inquiète pas, Alkatsu. T'inquiète pas, je vais en parler. Également, il y aura un système de reconnaissance faciale 3D, donc exactement l'équivalent. Merci TechLife on the Geek, ça fait plaisir que toi tu tips, ça fait grave plaisir, merci à toi. Il y aura un système un peu équivalent Face ID sur le Mi 8, donc un vrai système avec reconnaissance 3D, ce qui faisait cruellement défaut à tous les Android qui proposaient de la reconnaissance faciale, parce qu'ils le faisaient avec juste le capteur photo, donc en gros sans gérer les dimensions du visage. Donc c'est complètement, et d'ailleurs on va en reparler à la fin de l'émission à peu près, pour le OnePlus 6, mais donc c'était un truc avec une photo, ça se hackait facilement. Voilà, pour dire ça simplement. Et donc, évidemment, vu que le Mi 8, c'est un système de reconnaissance 3D, ça fonctionne même la nuit. Voilà, c'est ça qui est important aussi. Si Xiaomi vous intéresse, suivez tout de l'actu de Nomad sur Actu Xiaomi. Très très bien. Je me suis cassé le doigt. Rip à toi, monsieur Larobas. Et trois cafés. Ben, merci à toi, TechLife Andy Geek. Mec, tu me conseilles quoi, le Mi 8 Explorer, parce que j'hésite avec le OnePlus 6. Et ouais, je te dirais d'attendre les Mi 8 et d'attendre un petit peu les tests, parce que honnêtement, peut-être qu'aujourd'hui je conseillerais plus le Mi 8 Explorer, surtout avec le petit capteur d'empreinte sous l'écran. On va en reparler. Un des défauts par contre de ce Mi 8, c'est qu'il n'y a plus de prise jack, ce que je trouve vraiment dommage. C'est un truc que les téléphones Android ont aujourd'hui intérêt à garder. Bon, c'est un avis personnel hein, pour le coup. Et le téléphone sera vendu en fonction des versions entre 400 et 500 euros. Bon, c'est une estimation à la louche, hein, mais c'est ce qui paraît à peu près logique vu le prix en Chine, en rajoutant les 50 euros qu'il y a en général de différence avec la vente en France, 50-100 euros. On arrive entre 400 et 500 euros, mais c'est quand même un très joli prix pour des performances aussi élevées. Yo Lombardi Nicolas, oui c'est mon vieux pseudo. Que penses-tu du Mi A1? C'est le téléphone que je recommande pour monsieur et madame tout le monde aujourd'hui. À 150 balles, tu peux pas faire mieux. Il est dans la description pour ceux que ça intéresse, qui veulent se prendre le Mi A1. Et d'ailleurs, il coûte peut-être moins cher maintenant. Ça se trouve, il est à 120 ou 130 euros. Pas de frisac, c'est de la merde. Alors évite les majuscules, Pandi Panda. Mais moi, oui, j'ai. Bon, j'ai un iPhone 10 comme téléphone perso, donc je me suis habitué au fait qu'il n'y ait plus de prise jack, mais. Quand je monte dans la. Enfin, en gros, quand on va bosser avec mon pote Nico et que je monte dans sa caisse et qu'il y a une prise jack, vous savez, enfin un truc pour brancher le téléphone en jack sur sa voiture pour mettre la musique, et que avec mon iPhone 10, j'ai pas le port jack, je suis quand même en PLS dans ma tête, je suis vraiment. Voilà, comme le dit Jiraya. Donc, ouais, non, je suis assez déçu dans ce genre de moment-là. C'est des petits moments où on se dit, merde, s'il y avait le port jack, ça serait quand même vachement cool. Donc, je trouve ça dommage que des téléphones Android perdent cet avantage-là. Je l'ai pas dit par contre, l'écran donc 6,21 pouces AMOLED, donc avec des noirs assez profonds, donc c'est cool. On va maintenant passer au Mi 8 Explorer qui est quand même très très similaire, qui est un petit peu en dessous. Hop, le Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, capteur d'empreinte sous l'écran. Donc ça je trouve que c'est un point qui est assez cool, c'est une innovation que je trouve très intéressante personnellement, je trouve c'est naturel, pour moi le meilleur capteur d'empreinte, le meilleur positionnement des capteurs d'empreinte c'est sur la face avant, donc comme par exemple était le Galaxy S7 ou éventuellement sur le côté comme le faisait Sony à une époque ou le faisait aussi le Nexbit Robin que j'aimais bien, moi j'aime beaucoup les capteurs d'empreinte sur les côtés et en fait je m'attendais à ce que l'iPhone 10 d'ailleurs avant qu'Apple l'annonce et tout ça, je pensais que le capteur d'empreinte serait sur le côté et j'aurais vraiment aimé que le Touch ID soit sur le côté. Bon, on a eu Face ID, j'aime bien dans 95% des cas, mais il y a toujours ces 5% de cas où ça me saoule parce que ça se déverrouille pas bien. Voilà. 350 euros en Chine, voilà. Mais bon, forcément, avec le rajout qu'il y a toujours, ça m'étonne pas que ça soit un petit peu plus cher. En France. En France, compte 399 euros la version de base. Ouais. Et pour les écouteurs, tu fais comment sans jack? Bah. Tu utilises des casques Bluetooth, c'est un petit peu la philo. Le seul truc que je trouve cool chez Apple, et pourquoi ça me choque moins qu'ils aient retiré le port jack, c'est qu'ils ont proposé assez rapidement une solution en Bluetooth, donc les AirPods, qui valait le coup, et qui fonctionne bien. Moi j'ai des AirPods et j'en suis très très content, et effectivement, voilà, ils ont, on va dire, pallié au problème d'une certaine façon. Voilà. Donc, si tu enlèves quelque chose, mais que tu proposes une solution alternative qui fonctionne super bien, why not? Mais effectivement, chez Android, à part le OnePlus 6 qui a proposé des écouteurs Bluetooth, hein, si je dis pas de bêtises, qui sont vachement bien, globalement, il manque une cohérence. Et j'aurais aimé que Xiaomi propose quelque chose en Bluetooth juste derrière, aussi facile à utiliser que des AirPods. Montre le son de la musique, on l'entend à peine. Le but, c'est qu'on l'entende très très peu, hein, la musique. Hein. Donc le Mi 8 Explorer Edition, donc comme je le disais, sa grosse différence, c'est le design, parce qu'à l'arrière, il y a une. Alors apparemment c'est pas les vrais composants qu'on voit, mais on voit un peu une sorte de transparence, un petit peu à la Game Boy Pocket à l'ancienne. Donc ça je trouve ça. Game Boy Color peut-être ou Game Boy Pocket, je sais plus, mais on voyait un petit peu les composants à l'intérieur, donc je trouve ça assez joli. Le capteur d'empreinte sous l'écran, et par contre cette version Explorer sera un petit peu plus chère. Encore une fois, on n'a pas de prix exact, mais ça commencera à partir de 500 euros à peu près. Voilà. Et on va parler. On va parler parce que moi c'est limite celui qui m'intéressait un petit peu plus, le Xiaomi Mi 8 SE. Bon, SE, ils auraient pu quand même, voilà, pas copier à ce point-là les noms de chez Apple, mais bon, hein, chacun fait sa tambouille, hein, voilà. Ils auraient pu l'appeler Xiaomi Light Edition ou Mi 8, je sais pas, enfin il y avait ou Small Edition, bah non, Small Edition ça fait SE, mais ils auraient pu trouver un autre nom que SE quand même, je sais pas, le Mi 8 L par exemple ou quelque chose comme ça. Bon bref, voilà. Donc c'est la version un petit peu plus petite. Bon, quand je dis petit, c'est pas méga petit non plus, hein, ça se compare comme ça. Ça c'est la version normale, c'est le Mi 8, et ça c'est la version SE, donc un petit peu plus petite. Cette version SE, moi je la trouve intéressante parce que c'est un écran donc de 5,88 pouces, ce qui reste un petit peu grand, mais ça va quand même, qui est AMOLED, c'est un écran AMOLED, donc pareil, on a un écran de bonne qualité. Le capteur d'empreinte est à l'arrière, donc bon, c'est pas ce que je préfère, mais ça passe. C'est un Snapdragon 710, c'est un des nouveaux procos de chez Snapdragon, et normalement, niveau efficience de la batterie, et de la conso de la batterie, ça sera vraiment cool. La batterie fera 3120 mAh, ce qui est très très bien pour un smartphone de cette taille-là. Double caméra de 12 et 5 mégapixels, pareil, les tests à voir. Apparemment, ils se sont pas vantés de score des XO, donc je pense que la caméra sera pas exceptionnelle. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est le prix. Voilà, le prix est super intéressant parce que après, on va dire, passage en France, on sera à peu près aux alentours des 300-350 €, selon moi. Donc c'est super intéressant, surtout 300 euros, 350, avec 4Go de RAM et 60Go de stockage. C'est pas mal du tout, et je trouve que c'est un smartphone qui va vraiment faire très mal au milieu des petits smartphones. Un milieu qui est quand même très très faible. Donc ils ont raison d'essayer de se mettre sur ce marché-là. Après, attention, hein, ils appellent ça, entre guillemets, le petit téléphone, mais c'est l'équivalent d'un ancien 5,2 pouces, donc en gros, un équivalent d'un Galaxy S... je sais pas, un Galaxy S7, si je dis pas de bêtises, le classique, il faisait 5,2. Donc on va avoir la même taille qu'un Galaxy S7, qui était effectivement pas trop grand. Voilà. Ouais, merci Louis, ça fait plaisir. N'oubliez pas de liker le stream, ça aide un petit peu au référencement, c'est pas faux. À quand les constructeurs ont fait un câble constructeur comme Apple? Oh bah non, pitié, on a l'iPhone, on a l'USB-C. Pitié, ne faites pas de câble propriétaire, on en a assez. Tu vas me dire que tous les candidats se tombent sur le prix du Mi 8 alors qu'ils ont sûrement plus de relations que toi dans le milieu. Ah, il y a du clash dans le chat. Salut GameJoy, comment tu de GearBest? Le recommanderais-tu pour commander un Xiaomi? Bien sûr. Ouais, bien sûr, GearBest. Alors, bon, pour être tout à fait franc et honnête avec vous, GearBest, en gros, je touche une commission quand vous achetez sur GearBest. Voilà, comme ça, vous savez quelle est ma relation avec GearBest. C'est important avant que j'explique les trucs. Mais, au-delà de cette relation-là, et promets en toute franchise, chez GearBest, j'ai déjà commandé avant d'être en partenariat avec eux ou en collab avec eux, et j'ai toujours reçu mes produits sans aucun souci. La trottinette de Xiaomi, et là pour le coup j'étais en partenariat avec eux, elle a mis un mois et demi à arriver parce que j'avais commandé d'un entrepôt en Chine et ils m'avaient fait le mode de transport le plus lent. Donc elle a mis un mois et demi à arriver, mais elle est arrivée, voilà. Et ce qui se passe aussi sur GearBest, qui est super bien maintenant, c'est que tu as des entrepôts européens, voilà, et ça c'est cool. Et les entrepôts européens, c'est ceux qui commencent par les lettres G, je crois, c'est G machin, avec deux chiffres. Ça c'est les entrepôts qu'il faut absolument que tu vises, c'est les entrepôts européens. Voilà, c'est ultra important, comme ça tu reçois ton produit en une semaine, deux semaines à peu près, au lieu de un mois et demi, ce qui est super casse-couille. Par contre, effectivement, comme le dit Android Windows, je ferai pas méga confiance au service après-vente de GearBest. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Et tu payes un petit peu moins cher tes produits sur GearBest. Mais évite GearBest. Enfin, le service après-vente est pas ouf. Le seul moyen de leur foutre la pression, et c'est ce qu'avait fait Nico, mon pote Nico, c'est de leur, en gros, de créer un litige PayPal. En général, si tu crées un litige PayPal, ils se bougent un peu les fesses pour te régler ton problème. Voilà. Aucun rapport, mais as-tu fait l'UT Info de Toulouse-Rangueil? Non, j'ai pas fait l'UT Info de Toulouse-Rangueil. J'ai fait celui de Blagnac, moi. Voilà, bon, on a fait le tour de Xiaomi, alors dites-moi ce que vous en pensez de ces news sur ces deux téléphones-là. Est-ce que c'est des téléphones que vous seriez prêt à acheter? Est-ce que c'est des téléphones, voilà, qui vous intéressent pas trop, pas tant que ça? Est-ce que vous êtes team Apple? Est-ce que vous êtes team autre chose? Dites-moi. Moi, en attendant, je vais juste me prendre un petit truc à bouffer parce que j'ai absolument rien bouffé, je suis en train de mourir de faim, donc je me prends juste un petit truc. J'arrive. Eh bien, me revoilà. Hop, on a pris des KitKat ramenés du Japon. C'est des KitKat au thé vert et ils sont pas si dégueulasses que ça. Ah, ça ressemble à ça pour ceux qui sont curieux. Ah, c'est des KitKat, mais au thé vert. Bon, forcément, c'est flou, mais très bon. Voilà, je suis désolé, je mourrais de faim. Guillaume ne fait pas le ramen, non, en effet. Déduction logique. Avez-vous des problèmes de notification YouTube sur iOS 11.3? Je ne crois pas. J'ai déjà le Mi Mix 2. Ok. Je vais rester chez Honor. T'as bien raison, c'est très bien, Honor. Team Xiaomi, Team Android. Les fameux KitKat Macha, j'en avais ramené aussi. Ah ouais. Super Flame, un professionnel du Japon. Le Mi A1 vaut le coup aujourd'hui. En vrai, Adrien, je te dirais que oui, parce que c'est le seul smartphone Xiaomi qui propose une expérience Android pure. Et moi, je préfère vraiment Android pure. Donc, je te dirais qu'il vaut encore le coup aujourd'hui parce qu'en plus, il est pas cher du tout. Mais effectivement, si tu peux attendre un peu pour voir s'ils vont faire un Mi A2 d'ici 2 ou 3 mois, ça peut valoir le coup. Ouais. C'est ce que je te dirais. Connais-tu Banggood? Et si oui, trouves-tu bien? Ah, c'est un peu même combat, Gearbest, Banggood, AliExpress. Vous allez mettre en gros un mois à recevoir vos produits. Et comptez pas sur un service après-vente de type méga qualitatif. Voilà. En vrai, le mot qualitatif est très très mal utilisé. Ça ne veut absolument pas dire de qualité. Mais voilà, t'attends pas un service après-vente de qualité. Je suis très satisfait de mon LG Q6. Non, mais si t'es satisfait de ce téléphone, enfin, il n'y a aucune raison de changer. Globalement, est-ce que tu es content de ton iPhone 10? J'ai un S8, le clavier est horrible, ça me manque le clavier d'iOS bien moins perfectible. Moi, je suis très content de mon iPhone 10, mais je te dirais d'attendre au moins la keynote de demain, parce que ça se trouve, ils vont sortir l'iPhone SE 2. Moi, je croise les doigts pour qu'il y ait un iPhone SE 2. Si c'est le cas, je te dirais de partir sur le SE 2. Plutôt que le 10. Le service client Gearbest a largement été meilleur pour moi que celui d'Amazon. Oh putain! Alors pour le coup, celui d'Amazon chez moi a toujours été méga nickel. Amazon, il y a des produits, je disais, ouais, voilà, enfin ça marche pas. Oh, allez, pas de soucis, vas-y, YOLO, tu nous le renvoies, Starful Ilou. Enfin voilà, donc méga, enfin, toujours été méga content du service après-vente d'Amazon. Après, j'essaye le moins possible d'acheter sur Amazon parce que. Disons que c'est pas forcément une entreprise qui traite ses salariés de façon exceptionnelle, mais quand j'ai envie d'acheter un produit et que je sais que j'ai envie d'avoir un service après-vente vraiment bien, en général je prends sur Amazon parce que je sais qu'ils sont pas du tout relous. Voilà, bon, si vous avez envie de partager vos expériences de service après-vente, n'hésitez pas, hein, tant que c'est fait sans insultes et tout ça, n'hésitez pas à les partager dans le chat, hein, ça peut toujours être intéressant pour d'autres personnes. Après, un cas unique ne vaut pas un vrai sondage sur 1000 personnes, par exemple. C'est toujours le problème, c'est que des cas uniques veulent pas forcément dire que le service après-vente est mauvais. Des fois, on a une mauvaise expérience, voilà, ça vaut pas pour tout le monde, donc c'est compliqué. On passe à la news suivante. News suivante qui va intéresser peut-être pas mal de campagnards. L'internet très haut débit par Onde Radio va faire ses débuts en France. Et c'est quand même vachement sympa. C'est quand même très très gentil, comme dirait notre cher Lopoc. C'est quand même vachement bien parce que bah, pour des personnes qui n'ont pas accès à la fibre, et vous le savez comme moi que la fibre met un temps de malade mental à se déployer en France, ce qui est assez triste d'ailleurs. Eh bien, il va y avoir cette solution-là. Donc, en gros, pour vous expliquer, il y a eu enfin une première autorisation qui a été délivrée par un opérateur que je ne connaissais absolument pas. Bon, c'est en Seine-et-Marne. Voilà, ça va utiliser... qu'est-ce que j'ai noté? Ça va utiliser une bande de fréquence radio, hein, dédiée, entre 3,4 et 3,8 GHz, pour fournir directement une connexion Internet. Voilà, donc c'est vraiment comme si vous allumiez la radio, sauf qu'en fait, bah, c'est pas la radio, c'est Internet qui arrive chez vous. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir si dans ces plages de fréquences-là, il y a d'autres trucs qui sont utilisés, mais je pense pas. Ça paraît très logique que ces bandes de fréquences-là soient complètement libres pour cette technologie-là. Mais en tout cas, c'est une techno qui me paraît cool. Enfin, vraiment, c'est super intéressant. Et effectivement, si vous avez du mal à comprendre le principe, pensez simplement à la télé par onde ou la radio par onde. Hein. C'est un débit, c'est un flux qui vous est envoyé. Voilà, il y a un débit, quoi. La radio, le débit est pas très élevé, mais il y a un débit qui arrive sur vos postes. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est pas comme une box 4G. Voilà, pour ceux qui se posaient la question, ça n'a rien à voir avec une box 4G. Ça utilise d'autres bandes de fréquences. Ça utilise pas le réseau mobile. Voilà, il faut bien être clair là-dessus. Et le débit descendant sera d'à peu près 30 mégabits par seconde. Donc si on le convertit en octets, on divise par 8. Donc en gros, à peu près divisé par 10. Donc en gros, ça peut vous faire du... à la louche, 2,5 mégaoctets par seconde en débit de téléchargement, dans le meilleur des cas apparemment. Donc ça peut rester quand même plus intéressant que certains ADSL à même pas 1 mégabit par seconde. J'ai répondu à ta question avant que tu la poses, Dark Samurai. Voilà, donc 30 mégabits par seconde, donc équivalent 2,5-3 mégaoctets par seconde, à peu près. Et ça pourrait toucher 20 000 abonnés potentiels répartis sur 142 communes. Donc si vous êtes dans le département de la Seine-et-Marne, ça peut clairement vous intéresser. Voilà, je tenais à vous le dire. C'est plus une brève qu'autre chose. Mais j'aimerais bien que moi, cette techno se démocratise encore plus parce que clairement, bah, typiquement, pour un réseau internet de secours, ça pourrait être vraiment top. Moi, je sais que là, bon, je suis sur ma fibre et tout ça. Mais effectivement, si j'ai une coupure, c'est chiant parce que bon, j'ai pris une box, un petit routeur 4G exprès et je peux brancher ma carte SIM pour, on va dire, assez rapidement me relancer à un réseau en 4G. Mais ça reste vachement moins bien qu'un truc dédié pour ça, quoi. Quand je suis passé à la fibre, je suis passé de 4 mégabits à 900, ça change la vie. Bah ouais, tu m'étonnes, pareil que toi. Maintenant, je suis à quasiment 1 gigabit par seconde. À quelle heure ton live keynote demain soir? Juste après la keynote d'Apple. Donc à 20h, c'est ça. 30 mégabits environ égale à 4 mégaoctets secondes. Ouais, tu divises par 8, 16, 24, 32. Ouais, c'est ça. Entre 3 et 4 mégaoctets secondes. Ouais, mais moi je divise par 10 pour aller plus vite. C'est pas correct, mais ça me permet d'aller un petit peu plus vite dans mes calculs. Oui, d'ailleurs, t'as raison. En fait, je me suis un peu trompé. C'est plus entre 3 et 4. Hein, tu as tout à fait raison. Sais-tu ce que le route permet de faire au niveau du développeur? Parce que j'entends partout dire ce que tu veux, mais est-ce que c'est au niveau d'un Linux? En théorie, oui, Pascal BT. Après, Android est une version quand même modifiée de Linux, donc t'as pas exactement les mêmes trucs. Mais oui, tu arrives comme si tu étais root sur un système d'exploitation. Ça, c'est bien pour le Shadow. Tout à fait, Iceleaf, tout à fait. Et encore une fois, Shadow, voilà, pour par exemple, moi j'adore Shadow, mais effectivement, je ne recommanderais pas un Shadow sur un ADSL. Ayez au moins un VDSL, quoi. Clairement. Ok, on va avancer à la prochaine news. Alors, sachez que je ne suis pas quelqu'un de très très voiture. Moi, là, les bagnoles, c'est pas du tout mon truc. D'ailleurs, j'ai revendu ma voiture il y a pas très longtemps. J'ai le permis, mais j'ai jamais aimé conduire. Je trouve ça super casse-couille. Donc voilà, j'ai revendu ma voiture et je m'en porte beaucoup mieux. Mais il y a un type de voiture qui me passionne ou qui m'intéresse énormément. Passionné, ce mot est un peu fort, mais qui m'intéresse vachement, c'est les Tesla et c'est les voitures autonomes en général. Parce que clairement, si je pouvais être dans une voiture autonome, ça serait pour moi un rêve, vraiment un rêve. Et j'attends ça avec impatience. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit record d'autonomie, quasiment 1000 km qui a été fait en une charge de Tesla Model 3. Alors, voilà, il y a des conditions à ce record, parce que normalement, l'autonomie pour ce modèle-là et la batterie qu'ils ont utilisée, c'est environ 500 km. Alors, comment ils ont fait pour doubler quasiment l'autonomie? Déjà, de 1, j'ai noté un petit peu toutes les conditions du record. Déjà, juste avant, c'est deux Américains qui ont établi ce record, hein, voilà, c'est aux États-Unis. Les conditions, c'est que les pneus étaient gonflés au maximum des recommandations. Pourquoi? Parce que plus vos pneus sont gonflés, moins il y a de friction sur la route. Donc en gros, moins il y a de frottement. Donc ça économise un petit peu d'énergie. Deuxièmement, la vitesse de croisière, la vitesse en gros à laquelle il roulait, pour faire simple, était comprise entre 35 et 45 km/h. L'avantage de ça, vous vous en doutez, c'est pareil pour réduire les frottements de l'air. Parce que vous savez que plus vous allez vite en voiture, plus les frottements de l'air, moins vous êtes rentable au niveau de la consommation d'énergie, d'essence. C'est pour ça qu'en général, on vous conseille plutôt de rouler à 120 que 130, parce que 120, l'avantage, c'est que vous économisez un petit peu plus de carburant. 120, c'est mieux que 140, c'est beaucoup. Enfin, voilà. En gros, la courbe, je sais plus, mais je l'avais vu, mais c'est assez impressionnant. À partir d'un certain moment, la courbe, elle est presque exponentielle au niveau de votre consommation. Parce que les frottements de l'air, ça ralentit beaucoup la voiture. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir d'un trajet qu'on avait fait pour aller à Lyon avec des potes. Et il y avait tellement de vent qu'on avait fait genre deux pleins d'essence au lieu d'un qu'on faisait normalement parce que le vent était fort et allait en face de la voiture, enfin le vent était face à nous, donc il fallait appuyer à fond sur la pédale, enfin c'était impressionnant et on avait fait deux pleins. Voilà. Oui, c'est par rapport au carré de la vitesse. Ok, si tu le dis, je me rappelle plus de la formule. Les voitures ne sont pas autonomes, juste électriques. Oui, mais en gros, moi je dis c'est la marque Tesla qui m'intéresse, clairement. Effectivement, tu as raison, les modèles 3 ne sont pas autonomes. Tu as totalement raison. Et ensuite, donc, le choix du parcours. Donc j'ai dit, les pneumatiques étaient gonflées au maximum. La vitesse à laquelle ils roulaient, c'était entre 35 et 45 km/h. Le parcours avait peu de dénivelé. Donc en gros, peu de montée, peu de descente. Et enfin, il n'y avait absolument aucun truc activé électrique dans la voiture. Donc pas de système embarqué qui permettent de par exemple pas de climatisation, voilà, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Il n'y avait pas de climatisation activée, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien d'activé. Et en fait, ils ont roulé pendant 32 heures comme ça, donc faut y aller quand même, hein, de rouler pendant 32 heures en 35 km/h, c'était quand même très très long, mais voilà. Et donc ils ont roulé 32 heures pour effectuer ce record, et je trouve que c'est assez impressionnant, même si, et je vais vous donner mon opinion, donnez la vôtre si vous voulez en commentaire, comme d'habitude. Mon opinion, c'est que c'est sympa pour un défi, je trouve ça impressionnant, mais soyons honnêtes, c'est vraiment pas des conditions classiques d'utilisation d'une voiture. Donc, encore une fois, je trouve ça cool de faire des petits challenges comme ça, enfin, c'est intéressant de repousser un peu dans les limites, hein. Les êtres humains aiment bien toujours repousser les limites des choses, c'est pour ça qu'il y a le Guinness Book des records, hein. C'est pas pour rien, mais soyons honnêtes, c'est pas un record qui prouve quelque chose. Enfin, ça ne prouve rien. C'est juste un exploit que je trouve très très cool, personnellement. Et voilà, pour moi, c'est exactement, c'est le parallèle que je m'étais noté. C'est comme si tu utilisais ton téléphone en, comme si tu utilisais, je sais pas, un OnePlus, en ne lançant aucune application, aucun service en arrière-plan, rien du tout. Et en gros, tu dis, waouh, mon OnePlus, il tient 5 jours d'autonomie. Bah oui, mais si t'as rien lancé, si tu utilises pas le truc comme le font 99% des gens, bah forcément que ça va pas consommer beaucoup. Donc voilà. Pour moi, ça a pas trop de... Non, c'est 35 km/h, c'est pas des miles par heure. Je pense que dans l'article, ils ont converti, dans l'article de Les Numériques. Ouais. Pour consommer le moins, il vaut mieux rouler entre 50 et 80 km/h. Oui, j'imagine que c'est à peu près la limite avant que ça parte en vue, en cacahuète. Je crois qu'à 110 km/h, tu consommes 40% de moins qu'à 130 km/h. Il y avait quelque chose comme ça, hein. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Le défi est aussi intéressant que tester la vitesse max de la voiture, ça sert à que dalle, mais ça intéresse. Voilà, je trouve que c'est cool pour le kikimeter, quoi. C'est sympa de voir qu'une Tesla, une Model 3 peut rouler à quasiment 1000 km en optimisant au maximum. Ouais. 500 km, c'est cool, hein, pour une utilisation à peu près normale. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant, hein. 500 km, c'est vraiment super. Voilà. Alors, dites-moi si vous êtes aussi intéressé, comme moi, par les Tesla. Moi, je trouve que c'est vraiment super. Enfin, cette marque, elle fait vraiment des trucs très, très cool. Les voitures sont super jolies. Bon, par contre, ça coûte 50 bras, hein, soyons honnêtes. Mais c'est quand même cool. Non, pas 80, mais sinon, c'est retour vers le futur. Oui, c'est retour vers le futur. 80 miles à l'heure, ouais. Voilà. Alors, avant de passer à la news suivante, je vous le rappelle, vous pouvez aller sur mon Twitter et tenter de gagner un petit mois gratuit de Shadow en retweetant mon dernier tweet. Voilà, donc vous allez sur mon Twitter, vous me suivez, bien évidemment, et vous retweetez mon dernier tweet. Voilà, n'hésitez pas, ça vous fait gagner un petit mois. Attendez, ce que je vais faire d'ailleurs, si je vais faire ça. Ça peut vous faire gagner un petit mois gratuit de Shadow, parce que je fais un tirage au sort à la fin du stream. Voilà. S'il te plaît, Guy, dis-moi quel logiciel tu utilises pour tes lives. J'utilise OBS, Open Broadcaster. T'as eu un téléphone OnePlus. J'ai encore un OnePlus One qui traîne dans mes tiroirs. Sinon, non, actuellement, j'ai pas de OnePlus récent. 500 km en électrique, c'est à peine 100 km de moins qu'avec ma voiture thermique. Du coup, c'est pas gênant. Ouais. Je trouve Tesla très intéressant. Merci Louis, c'est très cool de partager. Hashtag Sardoche. Je suis pas venu pour faire des maths. Très très bien. Je suis pas fan parce qu'on est pas vraiment propriétaire de la voiture. Même raison de pourquoi je n'aime pas Shadow. Ok, tu as totalement le droit. OBS c'est Open Broadcast Software. Tu as raison. On va passer donc à la news suivante et on va parler de la PlayStation 4. Si vous avez cette console, sachez que la console a été à nouveau piratée. Donc si vous êtes sur le firmware 5.05, vous pouvez aujourd'hui installer un firmware craqué. Vous pouvez craquer la console. Et ce qui est assez fou, c'est que le jailbreak est donc complet. Donc vous pouvez très bien lancer des jeux complets. Vous pouvez lancer des homebrew, donc des trucs, comment on appelle ça, des logiciels faits par la communauté qui sont pas forcément officiels. Ce qui est très sympa, hein. On se rappelle de l'époque PSP, qui était une très jolie époque pour le milieu du hacking et tout ça. Moi, j'ai un très très bon souvenir de tout ça. Il y avait des homebrew qui étaient vraiment cool. Donc voilà, vous pouvez faire tourner n'importe quel code sur la console. Et surtout, qu'est-ce que j'avais vu qui était intéressant? Je ne m'en rappelle plus. Ce qui est intéressant, c'est que ce jailbreak, il est super simple à mettre en place. Et en fait, il suffit d'aller sur une page web. Voilà, et c'est tout. Et ça vous permet de jailbreaker votre console. Donc si vous avez une PlayStation 4 et que vous voulez installer ça, eh bien n'hésitez pas, parce que ça a l'air quand même très très simple à faire, et pourquoi s'en priver à moins de jouer en ligne, hein, évidemment. Voilà, donc c'était plus une brève qu'autre chose, hein, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ça, mais n'hésitez pas, clairement, la PSP que de beaux souvenirs, je suis d'accord avec toi Pascal BT, c'est pas ma console portable favorite, mais vraiment je l'ai dans mon petit cœur, parce que ouais, j'ai beaucoup joué à la PSP, hein, vraiment beaucoup joué. J'ai beaucoup joué à GTA, Medal of Honor, Patapon aussi. Putain, qu'est-ce que j'ai farmé par Patapon. À quoi j'avais joué d'autres aussi. Ouais, les GTA, vraiment beaucoup. Et puis plein de petits jeux. Si, le DBZ aussi. Il y avait un DBZ qui était très très sympa. Très très casu, mais très très cool. Voilà. Un peu comme la Wii U, il faut mettre des trucs sur la SD. Je pense que t'as voulu marquer SD, ouais. Tu peux me conseiller quel téléphone pour le collège? Eh bien, un petit Xiaomi Mi A1 qu'il y a dans la description. Non, on n'a pas fait la news du titre et on y passe maintenant. Et là, je veux un tonnerre d'emoji clap dans le chat. Non, moi je déconne, en fait, ce que vous voulez. Mais on va passer à la news de ce stream, la news principale. C'est que on peut faire planter un PC avec un simple son. Alors, simple son, le mot est un petit peu putaclic. Enfin, le titre est un poil putaclic. Mais on peut faire planter un PC avec des sons. Et c'est pas inaccessible. Enfin, c'est pas du tout inaccessible. Alors, que je vous explique un petit peu. Là, pareil, j'ai pris masse de notes parce que là, c'est un petit peu. Voilà, accrochez-vous. Accrochez-vous un tout petit peu parce que, voilà, il faut rester concentré sur cette news. Alors. En fait, grâce à des ondes sonores, on peut altérer le fonctionnement d'un disque dur. Donc c'est les disques durs, hein, c'est pas les SSD. En tout cas, SSD, y a pas, ils en ont pas parlé, je crois. Mais on peut altérer le fonctionnement des disques durs en le soumettant à des ondes acoustiques, des ondes sonores. Parce que de toute façon, une onde, c'est une vibration. Donc voilà. Donc et il faut savoir, et je vais vous montrer un petit peu la vidéo, que en 45 secondes, ce qui est quand même assez court, le PC qui est dans la démonstration freeze. Complètement. Et en gros, les enceintes doivent diffuser une onde sonore de 7,83 kHz, précisément. Voilà. C'est lié à la fragilité mécanique des disques durs face aux sons et aux ultrasons. Vous savez que les disques durs, contrairement aux SSD, sont une technologie, on peut dire une technologie très fragile. Hein. C'est pour ça qu'un disque dur, si vous le faites tomber, il peut se casser très facilement. Contrairement aux SSD qui sont comme des clés USB, hein, vous le jetez, il tombe, mais c'est rare que ça se casse comme ça. Voilà. Ce que font les sons sur le disque dur, c'est que ça fait bouger la tête de lecture, ce qui peut créer des incohérences pendant, pendant la lecture ou l'écriture d'informations. Et les ultrasons, donc les sons que nous, on n'entend pas, ça va impacter la tête de lecture encore plus fort. Et apparemment, ça fait résonner le capteur anti-choc, là, en gros, la sorte de protection sur les disques durs. Ça ralentit le disque dur, par conséquent, ça ralentit le disque dur par protection. Mais le mieux, au lieu de blablater, c'est de vous montrer la petite démo en vidéo YouTube. Alors, attendez, ça c'était vers 8 minutes à peu près. On l'a ici, vous allez voir que c'est super impressionnant. On va essayer de mettre en HD. Voilà, un petit 720p. Regardez, ici... attendez, je vais le retrouver. Voilà, ici il y a un test. En fait, ce que vous voyez là, bon désolé, c'est pas forcément très très gros sur l'écran, mais vous le voyez ici. Là, c'est une copie. Ils ont lancé une copie sur le disque dur et vous allez voir que dès qu'ils vont activer les sons, donc c'est la plaque de son, elle est en dessous. Voilà, le son est propulsé par dessous. Dès qu'ils vont balancer les sons, regardez comment la copie descend instantanément. C'est assez ouf. Hop, je vous mets le truc. Here is where we have an ultrasonic transducer that's underneath the laptop, and we're doing a throughput test. Voilà, bam, là ils ont lancé les ultrasons, et regardez la barre qui est descendue instantanément. Et en fait, au-delà de 45 secondes, l'ordinateur, après quelques minutes, mais en tout cas dans ce qu'il disait dans le compte-rendu, c'est que certains ordis, au-delà de 45 secondes, à partir de 45 secondes, commençaient à planter, friser, et attendez, hop. Là, il montre voilà, le petit blue screen. Ah, donc ça blue screen complètement au-delà d'un certain moment. Et c'est assez ouf. C'est assez ouf. Et c'est des chercheurs, donc c'est pas un truc 100% bullshit. Ça marche que sur les PC portables. Ça marche sur n'importe quel disque dur. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc on pourrait très bien imaginer un mec qui se ramène dans un data center où il y a des disques durs et qui balance un ultrason méga vénère et qui fait planter les disques durs. C'est pas de la théorie, c'est de la théorie, mais ça peut clairement être mis en pratique, sans aucun problème. Bon, ça demande quand même une certaine préparation, c'est pas non plus, enfin n'importe quel pélo peut pas le mettre en place comme ça, mais c'est assez ouf de voir que des fréquences, des sons, des ultrasons, peuvent faire bugger des disques durs, peuvent les faire planter. Par contre, apparemment, encore une fois, si vous avez des SSD, bon, a priori, il n'y a pas trop de problèmes. Bloquer le HD par le BIOS, enlever la batterie et la remettre. Top, j'en connais qui encore HD. Bon, alors, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouvais ça assez fou de vous montrer ça. Je suis tombé par hasard sur cette news et je la trouvais assez incroyable. Donc voilà, hein, et comme il l'explique dans l'article, on peut très bien imaginer des attaques malveillantes. Alors, eux, ils disaient que... voilà, on pourrait saboter des caméras de surveillance. Limite, ça ferait comme dans les films où les mecs qui regardent une caméra, ils font zit comme ça et hop, ça la crame. Enfin, ça crame le disque dur dans la caméra de surveillance. Voilà. Bon, j'espère que les caméras de surveillance n'ont pas le disque dur intégré dans le boîtier, ce qui serait quand même con. J'espère que ça utilise au moins un réseau GSM. Il me semble que d'ailleurs les caméras de surveillance c'est plutôt ça. Hein, ça doit utiliser le réseau 4G, je suppose. Est-ce que les données sont corrompues? Les données peuvent être corrompues. Ouais. Les données peuvent être corrompues. Mais c'est pour ça, abandonner les disques durs et réduire le prix des SSD. Ah bah moi, j'aimerais bien hein, qu'on soit de plus en plus sur du full SSD. C'est comme avec un simple fichier système, on fait crash Windows 10. C'est pas comme, ça n'a rien à voir. C'est intéressant aussi, hein, je te dis pas le contraire, Skynet, mais ça n'a rien à voir. Là, on est sur du matériel, on n'est pas sur du software. Sinon, utiliser un aimant. Non mais, bien sûr, ça, il y a l'aimant aussi qui peut pourrir des données. Mais c'est une autre technique. Le truc, c'est que... En fait, un aimant, effectivement, ça pourrit des disques durs, Mais là, c'est une toute nouvelle façon de faire. Enfin, c'est assez ouf. Et puis, ça a été étudié, ça a été recherché. Je trouve ça vraiment génial. Mais oui, tu as raison. Limite, un aimant fonctionnerait peut-être plus rapidement. Quoique, pour aller péter un disque dur et le coller dans un data center avec un aimant, voilà, ça dépend. Si t'as accès au truc complet, pourquoi pas. Je suppose que le son est peut-être plus discret si c'est un ultrason. J'en sais rien. J'imagine bien le gars qui se ramène dans un magasin avec une enceinte et qui dit « Donnez-moi de la thune, sinon je bosse. » Ouais, ça pourrait, hein, n'empêche. Hein. Ça pourrait. Tu es sur Shadow? Si oui, tu es sur les nouveaux CPU. Alors, ma réponse un peu compliquée. Non, sur ce Shadow-là, je ne suis pas sur les nouveaux CPU, mais j'ai pu tester un Shadow avec les nouveaux CPU, et c'est vrai que ça améliore beaucoup les choses. Il y a des effets secondaires sur le disque dur. Oui, comme ils le disent, ça peut causer des effets secondaires, ouais. Généralement, les caméras, c'est en filaire pour éviter de taper le signal. Logique. Oui, tu me diras, c'est encore plus logique, en fait, que tu dises ça. Parce que tu pourrais très bien balancer un truc pour pourrir l'onde. Enfin, oui, c'est totalement possible. Onde IEM. Ouais, mais l'onde IEM, c'est magnétique. L'onde IEM, c'est électromagnétique. Donc, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le son. Voilà. Bon, bref, c'était ma news, la news un petit peu cool. Je trouvais ça sympa de... Et encore une fois, voilà, je vous ai pas menti. Effectivement, on peut faire planter un PC avec un son. Bon, j'ai un peu douillé, je vous l'accorde, sur le fait que c'est pas n'importe quel PC, vu que ça concerne les disques durs. Mais comme il y a encore beaucoup de PC avec des disques durs, voilà, c'est pas complètement faux non plus. Est-ce que le disque dur est réutilisable après un redémarrage ou bien il est mort? Ça dépend en fait de l'intensité et de à quel point tu laisses le son. Apparemment, ça dépend, voilà, comme tout, ça dépend de l'intensité du truc. Voilà, voilà. Ok, on passe à la news suivante, le fondateur de Snapchat qui tacle Facebook, qui balance une petite pique à Facebook. Et vous allez voir pourquoi je vous présente cette news, c'est plutôt une brève, on est à 21h23, donc on va pas tarder à terminer le stream. C'est plutôt une brève, c'est plutôt une news, on va dire, rapide, dans le sens où je trouve ça cool que, bon, je vous raconte un petit peu l'histoire, entre guillemets. En gros, donc le fondateur de l'application Snapchat, hein, Evan Spiegel, il s'est moqué de Instagram et en gros de Facebook, parce qu'ils ont volé, entre guillemets, ses fonctionnalités. Voilà, bon, là je vous apprends rien, vous savez que Snapchat aujourd'hui, enfin que Instagram aujourd'hui a copié sur Snapchat comme jaja, hein, vraiment. Et en gros, attendez que je vous relise le truc, l'intervieweur lui posait une question, interrogé sur la façon dont Facebook a copié les fonctionnalités qui ont fait le succès, comme les stories, il a réagi avec beaucoup de sévérité, il a répondu, donc le patron de Snapchat, je crois qu'il est important de comprendre que Snapchat n'est pas simplement un assemblage de fonctionnalités, il y a une réelle philosophie sous-jacente qui va à l'encontre des réseaux sociaux traditionnels. Je lui accorde, autant j'aime pas Snapchat, autant je lui accorde qu'il y avait une autre façon de considérer les réseaux sociaux dans Snapchat. C'est une autre façon de voir les réseaux sociaux. 100% d'accord. C'est la raison pour laquelle ces derniers se sont sentis menacés. Et après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a taclé un petit peu le côté vie privée de Facebook. Et c'est ça que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Parce qu'il a dit, on aurait vraiment beaucoup apprécié qu'il copie aussi notre politique de protection des données. Et ce que j'aime bien dans cette news-là, bon, le tacle, c'est du clash un peu, voilà, bon, c'est comme ça, hein, il montre des épaules un petit peu. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'enfin, la vie privée est un argument de clash. Et enfin, la vie privée est mise en avant pour tacler ses adversaires. Et je trouve ça sain. Bon, les clashs, je trouve ça pas sain, mais bon, voilà, l'être humain, c'est comme ça, on se clash, ça arrive souvent. Mais je trouve ça cool, vraiment, que la vie privée devienne un sujet important et que ça soit pas juste un truc mis au second plan. Et pour que le patron de Snapchat tacle Facebook sur la vie privée, c'est que c'est devenu un sujet qui est important. Et c'est un sujet sur lequel il est important de communiquer. Je pense que Apple a été un petit peu en avance sur ça. Ça a été dans les GAFAM, dans les principales entreprises américaines, ça a été les premiers à communiquer sur la vie privée, à dire qu'ils étaient plus respectueux de la vie privée, etc., etc. Dans leur keynote, ils en parlent beaucoup plus. Donc voilà, je trouve ça très très bien. Snapchat se casse la gueule pour ça que ça râle, mais il fallait évoluer sur Android. Par contre, je suis d'accord, hein, pour le coup, Snapchat, c'est pas non plus une entreprise que j'ai dans mon cœur. Hein. Ils ont totalement chié sur la communauté Android et ils se prennent un petit peu le retour en plein dans la face. Mais mort de rire, comme si Snapchat était mieux que les autres niveau vie privée. Alors attention, que je précise bien, tu as raison de le dire comme Fox. Voilà, Snapchat n'est pas un exemple de vie privée, hein. Ils vendent leurs données, ils mettent de la pub comme jamais, enfin voilà, donc c'est pas non plus l'exemplarité de la vie privée, mais je trouve ça bien, encore une fois, et c'est pour moi l'intérêt de vous parler de cette news, c'est que on parle de vie privée, c'est ça que je trouve cool, c'est pas très très gentil, exactement. La description est pas à jour pour les liens. Tu as tout à fait raison, Extra, Extra Tech. Et écoute, je vais copier les liens tout de suite. Tout de suite. Ça va être rapide. Bon, par contre, tu auras les liens avec mes notes. Donc, ça va être chiant. Il y aura les liens avec... Écoute, je le... rappelle-moi de le faire avant la fin du stream, quand je ferai le tirage au sort. Voilà. Bon, bref, c'était la, la petite news. Donc, bon, je sais que parmi vous, comme vous, comme je viens de le voir, plein de gens n'aiment pas Snapchat. Pareil, moi, je suis pas très très fan, mais la vie privée arrive sur le devant de la scène. C'est un bon point. On passe au OnePlus 6. Petite brève, pareil. La reconnaissance faciale, une nouvelle fois sur beaucoup de téléphones Android, qui a été bernée par une vulgaire photo en noir et blanc. Pour vous expliquer rapidement, c'est quelqu'un sur Twitter qui a, je vous montre un petit peu la, la vidéo très rapidement, c'est quelqu'un sur Twitter qui a mis une photo, donc celle-là elle est pas en noir et blanc, mais il a mis une photo du propriétaire de, du OnePlus 6 et il a réussi à le déverrouiller grâce à cette photo sur, en la calant comme ça sur son visage, parce que le OnePlus 6 n'utilise pas une reconnaissance faciale en 3D, ça utilise une simple reconnaissance de photo. Voilà, bon, je trouve la vidéo très marrante, et, ce qui, et en fait dans le fil Twitter, il y a une seconde vidéo où il teste avec un visage, le même visage en noir et blanc, et pareil, ça déverrouille. Voilà, bon, on le sait hein, que c'est une énorme faiblesse, ces reconnaissances 2D. La reconnaissance 2D est à chier. Moi, je vous déconseille fortement d'utiliser la reconnaissance du visage si elle est en 2D. C'est vraiment, vraiment une très mauvaise idée. Autant le capteur d'iris sur les Samsung, ça peut être pas mal. Autant, si vous tenez à votre sécurité, évitez 100% la, la reconnaissance 2D. Il n'y a que Apple et donc bientôt Xiaomi qui propose une vraie reconnaissance en 3D qui, celle-là, est sécurisée. Sauf si vous avez un frère jumeau ou une sœur jumelle. Ou un parent qui physiquement est très très proche. Voilà. Enfin, après, on est d'accord, MX France, OnePlus aux F complet de la reconnaissance faciale. Bien sûr. Mais dans ce cas-là, autant pas la mettre. Moi, c'est un peu ma vision. C'est que c'est bien d'étaler la confiture et de dire on vous propose plein de trucs, mais si les features, elles sont pas terminées 100%, c'est pas une bonne idée. Là, pour le coup, je me rapproche plus de la philosophie Apple de ne pas permettre trop de trucs. Et de se focaliser sur quelque chose et de faire bien une chose plutôt que de proposer 10 trucs et que ça marche pas parfaitement. C'était le gros problème du Galaxy S8, c'est que le Galaxy S8 était un super smartphone, mais il y avait genre 5 façons de déverrouiller le téléphone et aucune n'était vraiment parfaite à mon sens. C'est un avis personnel, vous avez le droit de pas être d'accord. Et on va terminer par une dernière brève pour ceux qui seraient intéressés. On reparle au final un peu de, d'internet sans la DSL, sans le VDSL ou sans la fibre, donc c'est intéressant pour beaucoup de gens. Si vous êtes intéressé par Internet en 4G, la 4G box de Bouygues Telecom repasse en data illimitée. Vous savez qu'ils avaient douillé, il y a quelques mois en disant « Ouais, non, mais en fait, c'est illimité, mais c'est pas vraiment illimité, on bloque à 200 gigas ou 100 gigas, je me rappelle plus exactement de, du volume de données. » Donc ça y est, ils repassent sur une offre illimitée vraiment. Par contre, le prix augmente, c'est 43€ par mois. Et je crois que c'est aussi limité à certaines personnes, hein, c'est pas complètement ouvert. Il faut être dans certaines zones en France pour que ça soit accessible. Mais n'hésitez pas à vous renseigner pour ceux qui voudraient un petit peu améliorer leur connexion. N'hésitez pas à regarder si c'est disponible chez vous, parce que c'est, je suis sûr, un débit qui sera bien meilleur que de la DSL un peu classique. Voilà. C'était 200 gigas. Merci pour la précision. Il faut être éligible. La plupart du temps, tu ne l'es pas. Bien sûr, mais n'hésitez pas à recheck. Ça peut valoir le coup. Complètement. On va terminer ce stream. Alors, j'ai pas grand chose à partager aujourd'hui. J'ai donc deux petits trucs. Vous le savez. Je suis, pas en partenariat, mais en gros, je suis affilié avec NordVPN. Donc, vous pouvez, si vous êtes intéressé par un petit VPN pas trop cher et super efficace, utilisez le lien dans la description pour prendre un VPN que moi, j'utilise et je suis très, très content. Et dans la rubrique partage, l'autre truc que je voulais vous partager aujourd'hui, donc rubrique partage qui va être très, très courte, c'est un site qui s'appelle, que je trouve vraiment top, qui s'appelle gnouzik.com. Ce site-là, en fait, permet découvrir de nouveaux artistes de musique. En gros, le principe est méga simple. Vous rentrez 3 artistes que vous aimez bien. Par exemple, on va partir sur du... Bon, de façon très large, hein, on va dire du rock. Encore une fois, c'est le mot très très large. Donc, si vous aimez bien, je sais pas, par exemple, les Red Hot Chili Peppers, vous aimez bien AC/DC, bon, c'est du hard rock, c'est pas du rock classique, on est bien d'accord. Et vous aimez bien, je sais pas, Metallica, par exemple, hop, vous mettez ces 3 artistes-là, et en fait, le site va chercher dans sa base de données et vous proposer des artistes qui se rapprochent de près ou de loin des 3 artistes et des trois groupes que vous avez mentionnés. Donc vous faites continuer et il vous propose, bon, la Guns N' Roses, c'est pas étonnant, ça se rapproche assez près des artistes que j'ai mentionnés et ça fonctionne vraiment pas mal. Et ce que j'ai trouvé assez cool, c'est que ça fonctionne aussi sur des artistes qui sont pas forcément du même genre musical. Vous pouvez très bien mettre un artiste d'électro, un artiste de rock et un artiste de musique classique et il vous présentera des trucs qui sont liés de près ou de loin. Donc là, vous pouvez dire j'aime bien, j'aime pas ou je sais pas et il vous propose d'autres trucs. comme Lynyrd Skynyrd, Marilyn Manson, alors apparemment il y a un groupe qui s'appelle 80s, et le but c'est justement de découvrir des groupes comme ça, voilà. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça s'appelle gnousic.com, je vous le mets dans le chat, hop, pour ceux qui sont intéressés, gnousic.com, et c'est très très cool, voilà, n'hésitez pas à regarder, c'est, moi j'aime beaucoup. Réponds-moi, tu me conseillerais quoi comme tel entre OnePlus 6, Honor 10 et P20 Pro? C'est très compliqué parce que les trois sont intéressants. Honor 10 si tu fais plus attention à ton argent, OnePlus 6 si tu préfères Android pur, et P20 Pro si tu es plus attiré par de la photo, je te dirais. C'est pas grave, Draco, t'inquiète pas, y a pas de souci. Tu peux répéter le nom du site, je l'ai mis dans le chat, Mocha Station. Gnousic.com. Y a aussi Music Map dans le même genre, sûrement. Il y a plein de sites qui sont comme ça, mais celui-là, je voulais vous le partager histoire de pas vous faire une rubrique partage complètement vide. Et on va terminer, donc, comme d'habitude, avec la rubrique lecture du chat. Donc, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je vous le rappelle, vous pouvez... Ah, attendez, je vais remettre ça. Vous pouvez tenter de gagner un petit mois gratuit de Shadow en allant retweeter mon tweet. Voilà, donc vous allez sur mon Twitter, vous me suivez et vous retweetez ce petit tweet pour tenter de gagner un petit mois gratuit de Shadow. Et si vous êtes intéressé par le PC dans le cloud, eh bien n'hésitez pas, il y a un lien dans la description pour avoir moins 10 euros sur votre premier mois. Donc n'hésitez pas. Voilà, on va repasser sur du Facecam. Tu as un VPN gratuit qui marche bien? Non, les VPN gratuits, c'est à chier. Voilà, évitez. Je préfère vous le dire de façon crue comme ça, ça reste bien en tête. Non, mais évitez à fond les VPN gratuits. Évitez. Alors, en général, les VPN gratuits, ils chopent vos données, ils vous ajoutent de la pub et ils vous rendent pas vraiment anonyme. Voilà. La seule utilité, encore, je vous dirais qu'elle est très risquée, c'est d'utiliser un VPN pour changer de pays. Dans ce cas-là, ça peut s'envisager, mais faites ça sur un PC que vous pouvez formater derrière, ou si vous êtes, voilà, ou sur une navigation totalement privée, dénuée de plein de trucs. Voilà, mais si vous n'êtes pas sur ça, évitez et prenez un VPN payant, vous ne le regretterez pas du tout. Merci Ghost27, ça fait plaisir. Et je vous le rappelle aussi, si vous êtes intéressé pour soutenir mon travail, et moi ça me permet d'être de plus en plus indépendant, vous avez mon Patreon dans la description. Si vous me typez entre 1$ et 4$, vous avez accès à des channels sur Discord. Et si vous me typez à partir de 5$, vous avez accès aux vidéos en avance. Voilà, donc s'il y en a que ça intéresse, et s'il y en a qui veulent soutenir mon travail, n'hésitez pas. Et évidemment, ceux qui typent, il y a un canal spécial sur Discord, et je lis tous vos messages sur ce canal spécial. Voilà, donc si l'envie vous en prend, et si vous avez un café par mois que vous voulez m'offrir, voilà. Les articles dans la description sont pas mis à jour. Oui, merci, bonjour. Je vais le faire de ce pas. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, je les lis dès que j'ai mis à jour les articles dans la description. Voilà, hop, je les descends. Voilà, le premier, il est là. Hop, on fait le deuxième, il y en a beaucoup, il y en a 10. Hop, le deuxième, il est là. Le troisième, il est là, c'est celui sur le Mi 8 SE. Alors attendez, je vais quand même... Vraiment content de mon OnePlus 5, mais j'ai l'impression que tu es pas trop fan de cette marque. Non, je sais pas que je suis pas trop fan de OnePlus, ils font des super téléphones, mais je trouve que sur le service après-vente, ils ont pas toujours été méga clean. Non mais, c'est des très bons smartphones OnePlus, enfin clairement, vous ferez pas une erreur en prenant un OnePlus 6 ou un OnePlus 5T. Clairement, y a aucun risque là-dessus, hein. c'est vraiment des super téléphones, clairement. Par contre, ils ont totalement perdu leur image de téléphone entrée de gamme qui concurrence. En fait, ils ont perdu l'image que Xiaomi a repris. C'est-à-dire d'excellents téléphones à des prix totalement cassés. Voilà, Xiaomi a encore cette image. Pour combien de temps? Telle est la question. Et on a presque fini de copier les articles. Hop. Voilà. Et le dernier, il va être là. Voilà, normalement, si vous actualisez... Vous n'avez même pas besoin d'actualiser le stream. Est-ce que ça va enregistrer? C'est bon, voilà. Pourquoi conseilles-tu le Xiaomi Mi A1? Parce que c'est de l'Android pur, et c'est de l'Android pur à pas cher du tout. Connais-tu Cozy Cloud? Ouais, c'est une bonne solution pour du cloud où tu protèges un peu ta vie privée. Salut Guillaume, c'est un peu la dèche pour moi. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser un VPN? Oui, pour moi en fait, je pars du principe que tout le monde doit essayer de protéger un petit peu sa vie privée sur le net. Donc l'avantage d'un VPN, c'est que ça va vraiment t'apporter ça. Ça va te permettre que peu importe là où tu navigues, peu importe ce que tu fais sur le net, eh bien tu sois entre guillemets anonyme. Et certains me diront, mais si t'as rien à cacher, t'as aucune raison de faire ça, lol. Non, parce qu'il a été prouvé que, il y a plein d'études qui montrent contre ça. Qu'en fait, quand tu sais que tu es potentiellement surveillé et que potentiellement quelqu'un peut regarder tes recherches, peut savoir ce que tu fais sur le net, tu t'auto-censures et tu évites de rechercher des choses sur des sujets qui pourraient être sensibles, mais qui en fait font pas de toi un terroriste, quoi, ou des trucs comme ça. Donc clairement, non, c'est très important d'être anonyme, ou pas d'être anonyme, mais d'avoir un minimum de vie privée. Et puis t'as tout le truc des trackers, des trucs qui te pistent en ligne, des sites web marchands, des trucs comme ça. As-tu un site sympa pour trouver des modèles 3D utiles à imprimer? Genre socle ou accessoire Switch. En modèle 3D, tu as... les gens, pour ceux qui font de l'impression 3D, si vous pouvez lui dire dans le chat, je n'ai plus le... Thingiverse, voilà, Thingiverse, qui est un des trucs les plus connus. Mais si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à répondre à... Megatony, voilà. Je suis pas du tout d'accord à l'heure de prendre des VPN commerciaux. Conseilles-tu de faire des mises à jour Windows où notre PC peut très bien fonctionner sans? Fais tes mises à jour. C'est super important pour ta sécurité. Tu as déjà pratiqué des buffers overflow et le hacking de bas level? Non, non. C'est des choses qui m'intéresseraient bien, mais je me suis jamais penché dessus plus que ça. Voilà. Tiens, ça y est, Google, ils ont enfin compris que leur nouvelle version de YouTube était pourrie. Je remonte un petit peu dans vos questions. Tu es allé au Xiaomi Store? Non, à Barcelone j'y étais, mais pas à Paris. C'est quoi la prochaine vidéo? Une petite vidéo qui sera un défi Shadow, mais je ne vous en dis pas plus. On peut miner avec Shadow ou Jean ou pas? Alors, tu peux miner avec Shadow, mais si tu fais ça pendant trop longtemps, en fait, Shadow, ils peuvent détecter si des gens utilisent leur processeur et leur carte graphique à 100% pendant, genre, des jours et des jours. Donc, en fait, ce que fait Shadow, c'est déjà arrivé à une personne, c'est que si tu arrêtes pas de miner sur un Shadow et que tu utilises leur proco et leur carte graphique à fond, ils t'envoient un mail en te disant « évitez de le faire ». Voilà, c'est le retour que j'ai eu, c'est qu'ils préviennent en te disant évite de le faire. Parce que c'est pas comme ça qu'est prévu le truc. Normalement, c'est des PC pour des gamers. C'est pour que tu joues ponctuellement. Enfin, en gros, c'est un truc pour que tu sois pas à 100%, genre pendant des jours et des jours. Mais ils ont fait ça sur quelqu'un qui était à 100% du proco pendant des semaines, hein, il me semble. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc écoutez, on va pas tarder à arrêter le stream. Je vais donc faire le tirage au sort du tweet. Donc on va savoir qui a gagné le petit mois gratuit de Shadow. Donc écoutez, c'est parti. On va balancer le tweet. Hop, je vais aller le chercher par contre parce qu'il est pas du tout. Voilà, je l'ai pas du tout enregistré sur le PC fixe. Hop, tac, c'est parti, on va copier l'adresse du tweet, copier l'adresse du lien, on va coller le tweet sur, on va se loguer avec Twitter, tiens, je m'étais pas logué, comme ça, il y a plus facilement la preuve et tout ça, hop, voilà, donc on va faire en sorte que, attention, vous avez encore 10 secondes, le temps, ouais, 10 secondes pour aller retweeter et me follow sur Twitter, le temps que je lise une dernière question, tu connais Nextcloud, j'en ai entendu parler, mais je crois pas... que j'en ai enfin pas plus que ça. Shadow, c'est utile si on a un ADSL un peu pourri. Non, je déconseille Shadow fortement si tu as un ADSL, surtout si tu as un mauvais ADSL, clairement. Il faut au moins avoir un... Moi, je dirais, pour que ça soit confortable, il faut au moins un 10 mégabits par seconde. Donc à peu près du 2 mégaoctets par seconde. Voilà, c'est à peu près ce que je recommande. Tu as quoi comme argument pour convaincre les noobs comme mes parents d'utiliser un VPN, sachant qu'ils disent qu'ils n'ont pas besoin de protéger leur vie privée parce qu'ils n'ont rien à cacher? Metasploday, tu as un site qui s'appelle je n'ai rien à cacher.fr, je crois, ou .com, et tu as des conférences. Et le problème, bon, il faut que tes parents se tapent au moins 10-15 minutes d'explication, mais en fait, tu as des très bonnes explications de pourquoi on a tous quelque chose à cacher. Voilà, écoutez, on va faire le tirage définitif de la personne qui aura gagné le petit mois gratuit de Shadow. Attention, 3, 2, 1, zbardi, et le gagnant, ou la gagnante peut-être, parce que c'est Zoé Martial, non, Martial Lego, c'est un garçon. Donc c'est Zoé Martial qui a gagné le petit mois, hop, gratuit de Shadow. Je lui envoie un message tout de suite. Hello, tu as gagné le mois gratuit. Tu as gagné le mois gratuit de Shadow. Et je lui envoie le code dès que le stream est terminé. Voilà, et je vous envoie la preuve du tirage au sort, parce que évidemment, je l'ai oublié la dernière fois comme un gros con, mais je vous la mets là. Voilà, vous avez la preuve du tirage au sort, que c'est un tirage au sort authentique, et non pas un truc prévu. Voilà, écoutez, on va se retrouver sur le Discord pour ceux qui veulent venir discuter un petit peu, blablater tranquillou, en sachant que je vais pas rester longtemps parce que je n'ai pas mangé, et j'aimerais bien un petit peu, voilà, me nourrir accessoirement, c'est pas mal. Donc je vais venir un petit peu sur le chat du Discord, et après je ferai peut-être mon stream sur Guillaume Antislash en jouant un petit peu, mais c'est pas sûr, ce soir je suis un peu KO. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le Discord, discuter en vocal, tranquillou, on se retrouve là-bas, et je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde et merci d'avoir été présent pour ce slash et bisous à ceux qui écouteront ce slash en podcast. Voilà, merci à vous. Et donc je vous le rappelle, pour ceux qui veulent écouter les replays des streams, vous avez le... Donc dans la description, c'est le troisième lien je crois. Voilà, vous avez le replay en podcast des émissions. Donc n'hésitez pas, donc en podcast audio uniquement, voilà, vous pouvez le réécouter. Et c'est très très cool. Je vous fais des bisous, ciao tout le monde et merci d'avoir été présent. Ciao.